walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Hard against some mad bugger's wall.
Radio Canyon présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La confusion des hommes. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Une fois dehors, la mère fait la remontrance à sa fille.
Une jeune fille, ne donne pas de cadeau à un jeune homme.
C'est qu'un livre, mère. C'est pire que tout. Car en choisissant le livre, il peut lire tes pensées. La mère est doublement jalouse. D'abord, elle n'avait jamais pensé à offrir de livre. Et c'est sa fille qui lui offre ce qui le touche le plus. Elle décide de lui apporter des livres pour le lendemain.
Guillaume a disparu de chez lui et la campagne dans la maison d'une amie de Jean. Et tous deux ont décidé de s'enfermer dans cette maison au milieu des bois pour travailler et écrire. Ils sont dans une pièce, chacun assis à un bureau devant une feuille blanche. Chacun doit écrire un poème par jour qui soit parfait. Guillaume regarde à la fenêtre, le soleil, les arbres, il a la bougeotte. Cela fait 15 jours qu'il a enfermé pour écrire. Jusqu'à présent, il n'a rien fait de bon. C'est ce que lui dit Jean. Chaque soir, il doit lui rendre son travail de la journée. Et lui, Guillaume, regarde le sien. Ce soir, il n'aura rien à lui rendre, qu'une feuille blanche. Il a la tête vide. À côté de lui, Jean a posé son porte-plume. Il a fini. Il se lève avec sa feuille à la main.
Tu me donnes la tienne.
Guillaume lui donne la feuille blanche. Jean lui tend la sienne. Guillaume ne la lit même pas. Il sait que le poème de Jean est parfait. Il pose la feuille sur la table. Jean lui dit.
Tu ne lis pas.
À quoi bon? C'est parfait, comme d'habitude.
Et toi? Tu n'as rien écrit?
Non, je n'y arrive pas. J'ai la tête vide. Je n'en peux plus. Ouais, 15 jours que nous sommes enfermés ici, à écrire, c'est trop pour moi.
Jean se penche vers lui furieux.
Si tu veux devenir écrivain, il faut apprendre. Écrire, écrire, pour arriver à la perfection.
Oui, je veux devenir écrivain, mais je ne peux avoir d'inspiration à la commande et faire des chefs-d'œuvre tous les jours.
Jean fait les 100 pas et dit.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Tu arriveras à écrire d'une façon parfaite en écrivant tous les jours.
Je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Mais j'ai besoin, moi, pour travailler d'inspiration, d'être libre. C'est pas dans une chambre fermée, mais dans la vie.
Jean lui dit.
Et en travaillant 2 jours par mois,
il vaut mieux écrire 2 pages par mois. Avec inspiration et envie plutôt que 50 qui seront faites par obligation et dégoût.
Jean lui dit.
Je suis déçu par toi. Tout ce que tu as écrit jusqu'à présent ne vaut rien. C'est nul. Tu n'es qu'une loque.
Guillaume en a assez écrit.
Oui, j'étais une loque de supporter sans brocher ce que tu me fais faire. Et pour te prouver que je ne le suis plus, je sors.
Il quitte la pièce et la maison.
Il marche dans le jardin. L'air lui fait du bien.
Guillaume souffre que Jean le traite comme un rien et qu'il soit déçu par ses écrits. Jean, dans son coin, souffre de faire souffrir Guillaume, mais il veut qu'il arrive à quelque chose. Guillaume, en marchant dans le parc, se dit que tout est fini avec Jean. Leurs relations sont gâchées par leurs disputes et ce travail forcé qu'il veut lui imposer. Pourtant, tout était parti d'une bonne intention. Jean souhaitait, pour unir leur esprit, comme ils ont uni leur amour, faire en commun un recueil de poèmes à 2 voix. Malheureusement, Guillaume n'a pas encore la plume suffisamment experte, libre. Il manque de créativité. Il est encore très gauche pour pouvoir travailler avec Jean. L'on voit trop son manque de maturité. Cela lui aurait porté tort. Les gens ne voulaient pas le savoir et pensaient que Guillaume, à la longue, s'améliorerait. Maintenant, il s'aperçoit avec tristesse que Guillaume n'est pas son égal, son frère dans l'écriture. Il voit Guillaume marcher seul dehors, puis d'un coup rentrer.
Il est rentré en claquant la porte et monté au premier pour aller vers Jean. Il ouvre la porte.
Il lui dit, je m'évadise et je rentre.
Et il ferme la porte.
Jean sort de la pièce pour aller dans la chambre de Guillaume.
Il le voit qui commence à ranger ses affaires.
Il lui dit, « Guillaume, pardonne-moi, je m'excuse, je ne me rendais pas compte. Reste. »
Guillaume le regarde, il continue.
Je t'aime, c'est le principal. L'écriture compte moins que mon amour pour toi. Reste, je t'en prie.
Il le prend dans ses bras et l'embrasse sur les lèvres. Guillaume s'est laissé faire. Il l'aime bien aussi, malgré son côté autoritaire.
Le père va tous les jours voir Émilie. Il est amoureux fou. Fou, rien ne compte pour lui. Il lui fait des cadeaux somptueux, bijoux, robes, la mise dans un appartement pas bien loin de chez lui. Personne ne le sait. Officiellement, elle vit toujours chez sa mère.
Il a meublé l'appartement comme une bonbonnière, Louis XV. C'est rose, doré, blanc, des meubles en bois de rose. La fille se comporte avec lui comme une petite fille. Elle joue à la grande personne qui reçoit quelqu'un chez elle. Une bonne leur prépare le thé. Lui la couvre de baisers. La fait asseoir sur ses genoux. Mais, pour le moment, il n'ose pas aller trop loin. Il a peur de l'effaroucher. Un après-midi, le père reçoit une lettre. Il l'ouvre. Et lit, « Monsieur, ne vous faites pas de soucis. Le corps de votre ami est en lieu sûr. Un ami qui vous veut du bien. »
Il n'a pas eu le temps de réagir. La porte s'est ouverte. C'est sa fille qui vient à lui. Il met la lettre dans sa poche. Elle a l'air excitée et triste en même temps.
« Père, je vous ai vu avec Émilie dans le salon de thé. »
Le père ne peut parler.
« Non, ne dites pas le contraire. »
Je vous ai vu.
C'est dégoûtant. Vous étiez en train de vous embrasser en public.
Je t'assure, ma fille, ce n'était rien. Juste un baiser affectueux. Je ne vous crois pas, père. Je vous en prie, ne dites rien.
Pauvre maman, je ne lui dirai rien. Elle en souffrirait trop. C'est fini entre vous et moi. Je ne vous aime plus.
Ma fille, ma petite.
Je vais la prendre dans ses bras. Elle se dégage et lui dit, « Vous me dégoûtez. Laissez-moi.
Il surprit dit.
Faut pas se fier aux apparences.
Elle hausse ses épaules et sort de la pièce. Le père a oublié la lettre qui est dans la poche de sa veste. Armande continue à aller chez Hervé, malgré qu'il aille mieux. Elle ne peut s'empêcher d'y aller, c'est comme une drogue pour elle. Si un jour elle manque cette visite, elle est comme folle. Avant d'y aller, elle passe des heures devant son miroir pour scruter son visage.
Suis-je encore désirable? Ne suis-je pas trop vieille?
Elle se met de la crème à outrance, de la poudre et du rouge aux joues et aux lèvres. Le taux des yeux sont noircis, ses cheveux sont châtains, à l'eau oxygénée. Elle ressemble à un clown triste ou à une morte. Hervé la prend pour une vieille femme gentille. Un après-midi, elle ose aller seule chez lui. Ouvert et retourné se coucher. Pendant qu'elle lui prépare à manger, il soupire, se tourne dans son lit. Elle le voit, s'approche de lui.
Qu'avez-vous donc?
Rien, madame.
Si, je sais que vous avez des soucis. Parlez-moi. Vous pouvez tout me dire.
Elle se sent fondre. Elle a tellement envie de l'aider, lui faire plaisir. Elle croit le voir désespéré. Elle panique un peu, se baisse pour lui prendre les mains.
Mon petit, parlez-moi. Ne sommes-nous pas amis? Vous pouvez tout me dire.
Madame, que vous êtes bonne.
Allez, parlez-moi.
Hier, des amis sont venus me voir. Nous avions joué aux cartes et j'ai perdu. J'ai une dette d'honneur.
Elle sourit et dit, ce n'est que cela.
Elle se lève pour aller prendre son sac qu'elle a déposé sur une chaise. L'ouvre pour en sortir quelques billets. Les a mis sur la table.
Voici.
Mais je ne sais si je dois. Elle s'approche de lui.
Et lui dit. Ne sommes-nous pas amis?
Oui, madame.
Ne m'appelez pas madame. Mais Armand,
elle se penche vers lui. Il prend les mains. Elle a les mains glacées par l'émotion et tremble. Elle lui sourit les larmes aux yeux. Il a compris que ce vieux clown pathétique l'aimait et qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Il sourit intérieurement et en même temps il a peur de cette face tragique qui lui rappelle la mort.
Un après-midi sur les boulevards, Camille rencontre Émilie.
Elle ne peut faire autrement que se dire bonjour. Toutes deux gênées.
Bonjour Camille.
Bonjour Émilie.
Camille. Émilie voit Camille est habillée grande classe. Camille lui dit
que tu es élégante.
Oui, oh, c'est juste une robe que l'on m'a donnée.
Confirmé. Le roi Esther va sortir des catacombes.
Elle te va ravir. Merci. Camille la voit gênée et lui demande « Où vas-tu ? »
Ayez l'œil.
« Prendre le café au salon Le Petit Paris. Toute seule ? » Oui, je n'ai pas de chaperon. Allons-y ensemble, si tu veux, dit Émilie gênée. Elle aurait aimé être débarrassée de Camille. Au salon, elle s'assoit à une table près d'une fenêtre, commande chacun un café et quelques gâteaux. Camille lui dit « Ta situation a changé, tu as les moyens, ta tenue n'est pas la même. Ne pense pas cela et je me débrouille. Pourquoi ne viens-tu plus me voir ? J'ai beaucoup de choses à faire. Que fais-tu ? Je travaille un peu. Ah, oui, oui. Je suis une modiste. C'est pour cela que je suis bien habillée. Elle regarde sa montre. Elle me voit qu'elle a une montre de grand prix. Et je lis ta montre. Oh, c'est un héritage. Cette personne n'a pas dû mourir depuis longtemps. Vu que la montre est du dernier prix. Oui, bon, il faut que je me sauve. Elle se lève. Au revoir. Camille finit sa tasse et dit « Attends, je pars avec toi. » Elles se retrouvent dehors toutes deux. Une jeune femme les dépasse, se retourne et va vers Émilie. Elle lui dit « Bonjour mademoiselle, je m'excuse pour hier, mais j'ai pu venir vous servir. Je viendrai demain matin faire le ménage et l'après-midi préparer le thé. » La femme attend une réponse. Émilie gênée lui dit « C'est ça, c'est ça. Au revoir mademoiselle. » La femme s'éloigne. Camille lui dit « Tu as une bonne hein? Ça marche la couture. » Émilie ouvre ses épaules. « Excuse-moi, mais je suis pressée. » Et elle se sauve en courant. Guillaume, le fils, maigrit, mange de moins en moins. Tous se sent irrités, fatigués. La mère s'inquiète et fait venir le médecin qui l'ausculte. Il se laisse faire de mauvaises grâces. En sortant de la chambre, la mère demande ce qu'a son fils. Le docteur lui dit « Il y a des troubles provoqués par le pium. » La mère est surprise. Elle va le dire à son mari qui est à son bureau.
Notre fils prend de l'opium. C'est cela qui le rend malade, paraît-il. Que devons-nous faire ?
Ne te fais pas de soucis. Laissons le message s'en occuper. Maintenant, laisse-moi travailler. Si c'est de l'opium, ce n'est pas bien grave.
Elle le quitte en pensant qu'il est égoïste. Une fois qu'elle est partie, le père pense que son fils essaye de sortir de sa carapace humaine. Après quelques jours de traitement, le docteur dit à la mère qu'il faut l'envoyer à la montagne changer d'air.
Cela lui fera le plus grand bien et l'éloignera de certaines fréquentations. Il a besoin d'une vie saine et équilibrée. Il n'y a que le retour à la nature qui peut le lui rapporter.
Le médecin parti, sa mère le lui dit.
Tu pourras aller dans les Pyrénées, tu sauras bien.
Guillaume, démoralisé, épuisé par l'opium, et les hauts et les bas des relations avec Jean, sent le besoin de partir, de s'éloigner de tout ça. Alors, puisqu'on le lui propose,
oui, j'accepte. Je sais que cela me fera le plus grand bien.
Sa mère l'embrasse et lui dit.
Rétablis-toi un peu, prends des forces, parce que le voyage est long, et tu partiras. Nous te chercherons un logement pendant ce temps.
Le docteur lui donne des calmants. On le force à manger, c'est pas facile, car toi as un goût bizarre. Au bout d'un jour, il va mieux, se lève, et décide de dire au revoir à Jean, et malgré tout attaché à lui. Il frappe chez Jean.
Je suis venu te dire au revoir.
Dit Jean surpris.
Oui, je vais me refaire une santé dans les Pyrénées.
Jean baisse les yeux, il est triste.
Guillaume lui dit. Toi aussi tu devrais.
Moi, non merci, la nature me fatigue.
Pourtant, lorsque nous étions en Bretagne, nous sommes restés enfermés durant tous vos séjours à l'hôtel.
Que vas-tu faire durant mon absence?
Écrire, et toi?
Regarder les nuages, monter sur les cimes.
Tu pars combien de temps?
Je ne sais pas.
Tu pars pas trop longtemps.
Et il l'embrasse sur les lèvres. Guillaume dit.
Tu sens l'opium?
Toujours.
Et il le met à la porte. Guillaume se trouve dans un petit village des Pyrénées. Il est dans sa chambre d'hôtel. Elle est vaste, claire, avec de gros meubles rustiques. Les murs sont peints à la chaux. Il fait soleil. Guillaume est assis à une table près de la fenêtre. Il s'ennuie. Les montagnes, les arbres, les oiseaux, tout ça, ça ne vaut pas Paris, ces boulevards, Jean, l'opium. C'est long les journées passées assis sur une chaise. Il sort de sa chambre, l'hôtel a quelques pensionnaires, des touristes. Il prend ses repas dans une salle à manger. La cuisine est bonne. Un après-midi, il est dans le hall de l'hôtel. Il voit arriver avec bagages et femmes de chambre une femme grande, mince, très mince, les cheveux châtains, un visage beau mais très pâle. Elle doit avoir dans les 25 ans. Guillaume la trouve très belle. Elle va vers le concierge et lui dit « Je suis Marie Vian. J'ai fait retenir une chambre pour moi et pour ma gouvernante. » Le concierge, qui est un vieil homme à moustache, lui donne des clés et sonne le groom. Guillaume se dit « Voilà une personne comme il faut qui vient sûrement de Paris. » Déjeuner, il la retrouve. Elle a une table seule, à un mètre de la sienne, habillée d'une robe blanche. Ses gestes sont délicats et raffinés. Après le déjeuner, Guillaume va s'étendre à sa chambre. S'allonger sur son lit tout habillé. Il revoit la femme. C'est la première fois qu'il est ébloui par une femme, ou plutôt une jeune femme. Il se sent attiré par elle, mais le désir physique, non. Il aime la regarder comme on regarde un beau tableau. Après sa sieste, il s'est assis sur la terrasse de l'hôtel. Il voit sortir la jeune femme et sa gouvernante. Ils portent tous deux une ombrelle. La femme a une robe jaune et sa gouvernante une bleue claire. Ils parlent toutes deux. Avant de quitter la terrasse, la femme regarde autour d'elle. Voit Guillaume, s'approche de lui, accompagné de sa gouvernante. Monsieur, nous ne sommes pas du pays. Pouvez-vous nous indiquer un joli coin à voir ? Guillaume se lève et lui dit « Oui, madame, il y a au bout de ce chemin qui monte une plateforme dont l'on voit toute la vallée. Est-ce difficile d'y aller ? Ce chemin monte un peu, comme tous les chemins de montagne. Mais vous permettez, je pourrais vous y conduire, je n'ai rien à faire. » Elle regarde sa gouvernante et dit « Oui ». Les deux femmes se prennent le bras lorsque le chemin est trop caillouteux ou en pente, il les aide. Elle lui sourit, elle lui dit merci. Je m'appelle Marie Vian, je suis de Paris. Guillaume d'Argenteuil, je suis de Paris aussi. Ah, aussi, oui, je viens me reposer après avoir eu une année très pénible. Elle lui sourit et lui dit, moi c'est mon médecin qui me conseille la montagne. Je suis faible des bronches, je voulais la Suisse, j'ai préféré les Pyrénées. Je me disais que montagne pour montagne, mais je trouve les Pyrénées moins dures. Mon médecin aimerait me voir dans quelque temps, mais dès que j'ai quitté Paris, je me sens beaucoup mieux. Faites quoi à Paris ? J'essaie d'écrire, d'être écrivain. Ça doit être bien difficile. Et lui demande, et vous, que faites-vous ? Moi, rien, comme toutes les femmes de ma classe.
Je devrais être marié, j'ai déjà 25 ans. Mais la maladie m'en a empêché. Et puis, j'aime mieux être libre. Enfin, ils arrivent au bout du chantier où se trouve une pierre où on a gravé les coins cardinaux. La vue est magnifique. On voit toute la vallée. Ils restent un moment à regarder le paysage, se reposent un peu, puis redescendent. Le retour se fait d'une façon très détendue. Avant de se quitter, on décide de prendre ses repas ensemble. Ils vont prévenir le maître d'hôtel. Guillaume est enchanté. C'est une charmante jeune fille qui parle sans manière. C'est la première fois qu'il sympathise avec une femme. Le soir, ils dînent ensemble. Elle est très excitée. Elle dit que lorsqu'elle sera guérie, elle aimerait faire un grand voyage jusqu'en Amérique. Le lendemain, ils refont une promenade. Puis, le matin, ne la voit pas descendre. Elle attend dans le hall. Il l'attend toute la matinée. Déjeuner, elle ne vient pas non plus. Dans l'après-midi, il voit la gouvernante dans le hall. Il s'approche d'elle pour lui demander des nouvelles.
Comment va Mademoiselle Marie?
Elle n'est pas bien. Elle a repris de la fièvre et tousse un peu. Elle est au lit, escrave. Le médecin va venir la voir. Il voit qu'elle a l'air effondrée. Elle baisse ses yeux et lui dit : vous savez, mademoiselle est très malade. Les médecins ne peuvent rien faire. Il faut attendre. Attendre qu'elle guérisse toute seule. Puis-je aller la voir ? Attendez que le médecin l'ait vue. Vous pourrez la voir demain matin. Guillaume est triste de la savoir malade.
Le lendemain, à 10h30, il frappe à la chambre de Marie. C'est la gouvernante qui va ouvrir.
Entrez, monsieur.
Il entre. Elle est assise sur son lit. Il s'approche.
C'est gentil d'être venu. Je viens prendre de vos nouvelles. Je vais mieux. À chaque fois que le temps devient humide, je fais de la fièvre. Mais je vais beaucoup mieux et sortirai de ma chambre demain.
Ce n'est pas le lendemain qu'elle est sortie de sa chambre, mais 4 jours plus tard. Ils ont repris leur promenade. Guillaume va mieux et n'est plus en manque. Il écrit une fois par semaine à Jean. Il se sent vis-à-vis de lui plus libre. Guillaume et Marie sont très proches et petit à petit une tendre amitié les lie. Guillaume ne la désire pas physiquement, mais l'aime comme une petite sœur. Elle non plus ne le désire pas. Il est un peu trop maniéré. Elle l'aime bien. Elle l'aime comme si c'était un ami d'enfance. Ils sont allés ensemble au bal organisé par le village pour une fête. On fait de petits voyages dans les environs. Elle est gaie et rit toujours. Mais au fil des jours, son rire devient nerveux, forcé. Son exaltation aussi. Et se termine presque par des crises de nerfs. Un jour, elle force Guillaume à courir avec elle sur un chemin en pente. Arrivée au bout, elle se met à rire et à pleurer. Guillaume lui demande « Qu'avez-vous ? » « Rien. Je suis bien. Je suis très bien. Très bien. » L'hôtel organise une soirée. Marie est toute excitée, se prépare. Avec sa gouvernante, elle met sa robe. On entend déjà l'orchestre jouer. La gouvernante voit qu'elle n'est pas bien. Ses yeux sont fiévreux, ses joues rougies. Je vous trouve un peu fiévreuse, n'oubliez pas vous reposer avant d'y aller. Non, j'aurai bien le temps de me reposer. Elle entend le bruit de la fête. Une fois que la robe a été mise, la gouvernante va sortir pour aller chercher un bouquet pour mettre sur la robe. Trouver Marie à terre. Dans le bruit de la fête, elle se penche vers la jeune femme, elle tape les joues, elle reprend ses esprits. Vous allez vous allonger. Elle la soulève pour aller l'étendre sur le lit. Sort pour courir frapper à la chambre de Guillaume. Guillaume lui a ouvert. Marie n'est pas bien. Pouvez-vous venir la voir pendant que je vais chercher du secours? Il sort de sa chambre à vitesse pour aller dans celle de Marie. Il la trouve allongée qui suffoque, s'approche d'elle, se penche. C'est moi, Guillaume. Merci d'être venu. Je ne suis pas bien du tout.
n'aimerait pas mourir seul. Pourquoi dites-vous cela? J'en prie, pas de coquetterie. J'ai entendu, par hasard, avant de venir ici, le médecin dire à ma gouvernante que de toute façon j'étais perdu. Guillaume est très ému. Elle continue. Je n'ai pas peur. La vie est belle. Mais ce que je vais voir sera peut-être mieux. Oui, peut-être.
Guillaume n'entendait pas. Ce doit être le médecin et la gouvernante. Il prend la main de Marie, la serre très fort et se retire.
Derrière la porte de la chambre,
attendre. La gouvernante lui dit:
rentrez chez vous, ça ne sera rien de rester ici. Est-elle si malade?
Oui, monsieur. Et il s'en va tristement dans sa chambre.
Là, il s'est assis sur une chaise et attend.
Frappe à sa porte. Il va ouvrir. C'est la gouvernante.
Elle n'est plus de ce monde. Ses souffrances sont finies.
Guillaume est effondré. Le lendemain de l'enterrement, elle demandait à être enterrée dans le petit cimetière du village. Il est reparti pour Paris. Le voyage est atroce. Il pleut, les routes sont boueuses, il y a du monde dans les diligences. À Paris, arrivé à Paris, démoralisé, épuisé, mouillé, il revient en plus mauvais état qui n'était parti. Sa mère, en le recevant, est surprise par sa mine. Il monte immédiatement à sa chambre. Se déshabille et se couche. En plus, il a pris froid. La mort de Marie l'a complètement démoralisé.
C'est la première fois qu'il assiste à une mort de si près. Et complètement démoralisé, oui. Il ne veut sortir de son lit, ni voir personne. Sa mère frappe à sa porte.
C'est moi, c'est maman. Je peux rentrer ?
Non, mère. J'ai besoin d'être seule.
Qu'as-tu, mon chéri ?
Rien. J'ai envie d'être seule. Elle n'insiste pas et se retire en se demandant ce qui a pu se passer durant son séjour. Un après-midi qui se promène au bois, il voit Émilie qui avance vers lui. Dès qu'elle le voit, elle se met à courir dans une allée transversale. Il lui court après et elle a disparu. Il est furieux. Il se demande pourquoi elle n'a pas voulu le voir. Seule chez Hervé, qui est allongé tristement sur son lit, tout habillé. Elle le voit triste et lui dit
« Qu'avez-vous ? »
« Rien. »«
Si, je sens que vous avez quelque chose. Je n'aime pas vous voir triste. »«
Mais rien. »«
Ne faites pas l'enfant. Dites-moi ce qui vous chagrine. »
Elle se penche vers lui. Il voit son masque de clown.
« Si vous me dites rien, je ne pourrai pas vous aider. »
Il soupire.
« À quoi bon ? » ?»« Le médecin est venu ce matin. Il m'a dit que pour ma guérison, il fallait que je parte me reposer et faire une cure à Vichy. »
Elle sourit et dit.
« Ce n'est que cela. Vous en avez de bonnes, vous. Je n'ai pas les moyens de me payer cette cure. »
Elle sourit et dit.
« Enfant que vous êtes, moi je peux.
Je ne peux accepter. Et puis il faut beaucoup d'argent.
Vous accepterez, car je vous l'offre de bon corps. Il vous faut combien ?
Le prix d'une cure.
Je dois partir maintenant. Ne vous faites plus de soucis. Vous partirez pour guérir. »
Elle l'embrasse sur le front et le quitte. Dehors, elle est toute excitée et heureuse de pouvoir aider son ami. Une fois chez elle, dans sa chambre, elle réfléchit. Elle sait qu'elle a très peu d'argent dans sa cassette. Par amour pour son mari, au début de son mariage, elle lui a tout donné et il lui verse pour ses dépenses personnelles une pension. Elle soupire et se dit
« Je n'ai pas suffisamment d'argent pour une cure. »
«
que vais-je faire? J'ai promis, je dois l'aider. Mais comment? Je n'ai rien à moi.
Tout à coup, elle voit ses bagues au doigt.
Oui, mes bijoux m'appartiennent.
Alors, elle va vers sa coiffeuse.
Elle s'est assise et ouvre un coffre à bijoux. Je vais les vendre et cela me permettra d'avoir un peu d'argent d'avance. Oui, mais s'ils s'en aperçoivent, je ferai faire des faux. Ils en font de très beaux. Oui, c'est ça.
Elle se lève pour aller chercher un sac dans son armoire pour y mettre le coffre à bijoux. Et sort de la pièce.
Canyon a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La confusion des hommes, dont c'était la 8e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, c'est